Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
De plus en plus, les banques offrent des crédits à la consommation en particulier, pour les aider à réaliser un certain nombre de projets. Et c'est l'argent, cet argent, ces crédits peuvent financer par exemple l'achat d'une maison, d'un terrain, d'une voiture ou bien d'autres choses. Cependant, certains gens amènent cet argent et se retrouvent parfois dans des difficultés. Ils ne savent plus comment le rembourser. Alors, comment bien gérer un crédit à la consommation? Voilà, Kitenge, stratège et analyste économiste économique et l'invité de Capital Service. Monsieur, la première question est de savoir qu'est-ce qu'on entend par crédit à la consommation.
Le crédit à la consommation, en fait, c'est les facilités financières que soit les banques, soit les commerçants accordent à leurs clients afin qu'ils utilisent cela pour répondre à des besoins immédiats.
Voilà, pour quel genre de besoins?
Je donne un exemple simple. Il y a des gens qui, dans un exemple qui est dans sous la marque télécommunications, il y a des gens qui, auprès de leur fournisseur de services, au moment où ils n'ont pas de crédit, la société dit on peut vous donner $5 de consommation que vous allez payer dès que vous allez recharger. Ça, c'est un crédit à la consommation. Il y a également des sociétés comme UAC, et UAC, c'est une société de la place qui vend des meubles et des biens électroniques. Ils disent aux gens, si vous avez un salaire, je peux vous donner un bien, vous allez payer à tempérament. Et il y a de plus en plus de banques qui disent aux gens, et ça, c'est le métier de la banque, si vous désirez acquérir un bien d'une importance qui dépasse vos moyens actuels, nous, au regard de votre profil, nous pouvons vous donner de l'argent pour que vous acquériez ce bien, peut-être que vous... que ce soit un investissement ou un bien de jouissance, et vous payez à tempérament. Voilà plus ou moins une illustration imagée de ce qu'est le crédit à la consommation.
Et il semble que de plus en plus, dans beaucoup de pays, les gens ne vivent que de ça, le crédit de consommation.
J'aimerais expliquer quelque chose, et c'est extrêmement important, je profite de votre micro pour le dire. Dans un crédit, il y a trois acteurs. Il y a celui qui emprunte, il y a celui qui prête, et il y a l'État. Dans tous les pays du monde, le gros risque du crédit en général, c'est l'impaiement du crédit et la crise généralisée qui amène à l'endettement chronique. Pourquoi la responsabilité de l'État? Parce que l'État régule. L'État dit ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Parce que parfois, les gens, pour des besoins de vente ou pour des besoins de placement de crédit, ils poussent les consommateurs trop loin, au-delà de leurs moyens. Première chose. Donc l'État est là pour réguler. C'est extrêmement important parce que le crédit, il fonctionne dans un pays que s'il est repayé à temps et si le taux de déperdition est faible. Deuxième chose, c'est les commerçants ou les banques, ceux qui donnent du crédit. Ils doivent être en mesure de donner du crédit à des gens dont ils ont le profil, dont ils ont l'assurance, qu'ils ont la capacité de payer. Il ne faut pas tenter les gens au-delà de leurs moyens. C'est irresponsable, c'est irrationnel, parce que ça finit par compromettre.
De plus en plus, les crédits attirent beaucoup de gens.
Oui, bien
des banques.
Mais bien entendu.
Qui sont accrochés, qui viennent chercher les crédits.
Bien entendu. Et le troisième, c'est le client lui-même. Il doit être responsable. Il doit savoir que quand il prend de l'argent d'une banque ou qu'il prend de l'argent d'un fournisseur quelconque, il doit être capable d'assumer la discipline du remboursement. Les délais sont extrêmement importants et en cas de crise, avoir l'honnêteté et le courage de repartir vers le partenaire et rediscuter avec lui de nouveaux termes. Et autre chose de ça, c'est le dernier conseil que je donne aux clients, il ne faut jamais prendre des engagements qui dépassent vos capacités.
Voilà, ne prenez pas des engagements qui dépassent vos capacités. Il y a certaines personnes qui vont par exemple prendre des crédits et se disent, bon, je vais payer, à un certain moment, elles ne payent plus, voilà, elles disparaissent et la banque ne peut plus entrer en contact avec ce genre de personnes. Alors, qu'est-ce que cela peut entraîner par après?
Théoriquement, quand une banque vous donne un crédit, il prend toujours une assurance. L'assurance générale qu'ils prennent, c'est une garantie. Ça peut être un bien ou ça peut être un flux financier. Et donc, ils ont toujours les moyens de pouvoir vous tenir sous contrôle.
Généralement, les banques exigent votre salaire, si vous êtes, par exemple, un employé quelque part, que le salaire soit bien, c'est ça.
Par exemple, et au-delà de ça, ils demandent que vous donniez un bien, ça peut être un frigo, ça peut être une maison.
Un bien de valeur.
Un bien de valeur qui correspond plus ou moins à la valeur, ou qui est généralement supérieure à la valeur du crédit que vous prenez. Ça leur laisse la possibilité de pouvoir exécuter la garantie. Et c'est comme ça que beaucoup de gens, aussi bien ici qu'en Europe, perdent leurs biens. Et il y a des gens qui perdent des maisons simplement parce qu'ils n'ont pas tenu les délais. parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas engagé la discussion avec le banquier, alors qu'ils ont connu des difficultés, qui peuvent être des difficultés sérieuses.
Oui.
Et sur la table, nous avons des pays, aujourd'hui comme la Grèce, où l'État est intervenu. Comme l'Espagne, l'État est intervenu en disant, nous sommes tombés dans une crise, la situation dans laquelle nous sommes est grave, et elle est pour tout le monde, et pas du fait des gens qui ont perdu leur emploi. Oui. Et donc, de manière spéciale, il y a des mesures spécifiques que le gouvernement prend. C'est pour ça que je disais, c'est une tripartite. L'État régulateur, les opérateurs économiques et les consommateurs.
Bien. Nous avons un auditeur en ligne, Alex Tchembe, nous appelle de Congo, mais au Katanga. Bonjour Alex.
Bonjour monsieur le journaliste.
Alors nous parlons du crédit à la consommation. Qu'est-ce que vous avez à nous dire Alex?
Oui, ce qui est déplorable, c'est quoi? Moi j'ai un regret concernant nos banques.
Oui.
Il y a des banques qui nous prêtent de l'argent et il y a d'autres qui sont. Et surtout pour les travailleurs, c'est un grand problème. Les gens ne savent pas gérer leur argent quand on leur prend l'argent au niveau de la banque. Et d'autres choses, d'autres personnes vont avec cet argent dans des boissons ou dans. Donc, c'est difficile avec nos frères.
Voilà, c'est difficile avec vos frères. Ils utilisent le crédit pour aller boire.
Alex dit de manière assez simple, le troisième pilier que j'ai cité ici, la responsabilité. Quand vous prenez un engagement vis-à-vis d'une banque, quand vous empruntez de l'argent, vous devez savoir que vous avez l'obligation de payer. Vous devez le payer. Le plus tard, vous le payez, le plus vous payez. Si vous n'êtes pas dans les termes du contrat, vous allez payer davantage avec des pénalités. Et donc, à un moment donné ou à un autre, ne prenez le crédit que quand vous en avez réellement besoin.
Et pour quel type de besoin, par exemple?
J'ai toujours dit qu'on ne prend pas un crédit pour de la consommation journalière. Il faut prendre un crédit pour faciliter un accès à un service à valeur ajoutée. Je vous donne un exemple simple.
Oui.
Vous devez payer le minerval de votre enfant, c'est un devoir. Vous n'avez pas l'argent au moment où il faut payer le minerval. Vous pouvez prendre un crédit, vous payez le minerval, parce que vous savez que vous pouvez saucissonner ce paiement dans le temps et vous avez la capacité de le rembourser. Mais seulement, au moment du paiement, vous n'aviez pas assez d'argent. C'est important. Si vous désirez faire un business qui va rapporter de l'argent, vous pouvez emprunter de l'argent, parce que vous savez qu'avec la discipline d'exécution, vous allez avoir de l'argent et avec les bénéfices, vous allez devoir rembourser.
Mais il y a certaines banques qui vous disent non, ce crédit, ce n'est pas pour faire des business, c'est le crédit pour faire. Par exemple, s'acheter une maison ou faire ceci.
Oui, c'est un autre type de crédit. Si ce n'est qu'un crédit à la consommation pure, ça sous-entend qu'en fait, vous allez acquérir un bien dont vous avez la capacité d'acquisition, mais dans le temps. Je donne un exemple simple. Vous avez un salaire de 5 000 $, vous avez la capacité d'épargner 2 000 $, une maison vous coûte 50 000 $, vous dites, ok, moi je vais acheter la maison à 50 000 $, mais je n'ai pas les 50 000 $ à la fois.
Oui.
J'ai la capacité de mettre de côté 2 000 $ par mois. Alors, en ce moment-là, tu vas voir la banque regarde tes revenus, il regarde la valeur de la maison, il dit, ok, en 25 mois, tu as la capacité de rembourser. Et s'ils ont la capacité de donner un crédit en 25 mois, ils vont te le donner, et ils vont te dire ce qu'on va te coûter le contrat, et c'est le crédit.
Oui.
Et là, je dis toujours quelque chose de très simple. Sur les contrats de crédit, il y a toujours des petites écritures. Il faut bien les lire, parce que c'est là-bas que tu trouves les conditions fondamentales.
Mmh.
Parce que le jour où vous n'avez pas payé, c'est ce qu'on va vous montrer. Donc
il faut avoir le temps de bien lire le contrat.
Et se faire conseiller le cas échéant.
Mmh.
Dans certains pays, il a carrément été interdit les petites écritures. Ça veut dire qu'en fait, vous avez l'obligation légale de tout expliquer à votre partenaire, celui qui vient prendre un crédit chez vous. Vous devez lui montrer les risques qui encourent au cas où il ne respecte pas les délais. Vous devez être clair avec lui. Et je crois que là-dessus, les banques locales ont encore un problème.
Cela veut dire qu'ici, par exemple, il y a certaines banques qui s'arrangent pour piéger les clients qui viennent.
Les banques dans le monde entier font exactement le même exercice. Elles essaient de placer le plus de crédit possible parce que le crédit paye.
Ça leur rapporte beaucoup.
C'est le produit phare de toutes les banques, le crédit. Et donc, ils peuvent vous passer rapidement un crédit dont vous n'avez peut-être pas le profil. Et si vous ne faites pas attention, c'est vous qui paierez le prix.
Voilà. Deux autres auditeurs en ligne, Ismaël Mpoy et Kalumbashi, et Adrienne Amouyeti, toujours dans la même ville. Ismaël, bonjour.
Bonjour, je dis Kachala, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Café.
On vous écoute, Ismaël.
Oui, ma première préoccupation était c'est de savoir à l'économiste de faire un peu le bilan, de nous expliquer entre le businesser et le salarié. Que puisse emprunter les comptes chez le banquier? C'est ça ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation était de savoir parce qu'à 6h45, j'ai suivi l'invité qui disait par rapport au taux de remboursement. plus ce sont des taux de vie plus élevés. Ça cochonne parfois, c'est, par exemple, 1000 dollars, vous risquerez de payer à chaque semaine, vous rembourser, à chaque fin du mois, vous rembourser, à chaque fin du mois, vous rembourser, et vous allez encore rembourser aussi la somme que vous aviez emprunté. C'est ça ce que je cherchais aussi à savoir. Et plus aussi à ceux qui empruntent, ils n'en tiennent même pas compte aussi de l'intérêt dont ils pourraient rembourser aussi aux banquiers. Je demandais aussi une dernière question à savoir, quels critères qui se posent pour faire emprunter à un client l'argent à la banque. Merci beaucoup.
Bien. Adrienne, vous êtes à Lumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi au stratège Al-Kitenge.
Bonjour.
Ok, ma première question est de savoir quelles sont les meilleures stratégies que les clients pourront au moins appliquer pour mieux gérer l'argent qu'ils prennent dans des banques. Et ma deuxième question, j'aimerais demander à monsieur Al, est-ce que des banques qui donnent des crédits, ils ont des critères avant de donner de l'argent à leurs clients pour savoir si leurs clients contient au moins des objets-là, des grands valeurs. Alors, en cas où les banques donnent de l'argent à des clients qui n'ont rien, mais qui veulent prendre des grands montants, que fera la banque donc de ces gens, des personnes? Ils vont donner ou bien ils ne donnent pas? C'est ça mes préoccupations. Merci, Michel.
Bien, merci à Rien Amrieti de Lumbashi, qui tenait la première question d'Ismaël de Lumbashi, de savoir entre un businessman et un salarié, qui a droit, tu peux solliciter un crédit.
Les deux ont le droit de solliciter un crédit. Le businessman, il va investir, il montre généralement un plan d'affaires, ce qu'on appelle un business plan. Mmh. Il montre sa discipline d'exécution, ça veut dire il montre ce qu'il a déjà fait, et donc sa capacité à pouvoir réellement réaliser un business et le tenir avec performance et succès. Mmh. Et en ce moment-là, sur base de ça, la banque prend un risque avec lui en prenant un certain nombre de garanties pour qu'on puisse l'appuyer. Les banques sont très intéressées par les hommes d'affaires parce que les hommes d'affaires sont des gros chiffres, mmh, et les gros chiffres intéressent les banques. Par contre, lorsque vous avez un salaire, il y a ce qu'on appelle la quantité saisissable du point de vue légal. Chez nous, c'est 30%. Vous ne pouvez pas dépasser les 30%. Ça veut dire qu'en fait, la banque, en réalité, ne peut pas vous prêter plus que ça.
Certains parlent de 50%.
Non, c'est 30%. Là, oui, tout à fait. Et la banque ne peut pas vous prêter plus que ça, sinon vous devenez surendetté et vous passez dans le risque d'un endettement chronique. Et donc, les deux ont la possibilité d'avoir un crédit. Et, en fonction du type de crédit, le profil dit généralement si vous êtes éligible ou pas. Mmh. Et moi, je conseille toujours aux gens, ne prenez qu'un crédit qui vous laisse vivre. Ne prenez qu'un crédit qui vous permet de garder un minimum pour que votre famille continue à vivre décemment.
Voilà. Et il est revenu sur le remboursement, il faut rembourser chaque mois, parfois la personne...
Oui, bien entendu,
il n'est pas en mesure de le faire.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les banquiers ont le devoir légal de dire aux gens combien va leur coûter le crédit au total. Et bien entendu, les mensualités doivent être expliquées aux consommateurs. Et aujourd'hui, chez nous, il y a un grand problème. Pendant 50 ans, nous n'avons pas accédé au crédit. Donc la culture, la connaissance du crédit est loin de nous. Mmh. C'est pour ça qu'il est important que dans la communauté, l'État, les associations de consommateurs fassent ce qu'on appelle de l'éducation financière. Dans nos écoles primaires, il faut commencer à expliquer à nos enfants l'argent. Parce que en grande partie, les Congolais ne comprennent pas bien l'argent. Et donc, il est important de leur expliquer comment ça fonctionne. Et il faut qu'ils sachent que la seule raison pour laquelle les banques donnent des crédits, c'est parce qu'elles veulent avoir en contrepartie et leur argent et les intérêts. Mmh. En fait, la banque vous donne l'opportunité d'acquérir un bien ou d'opérer un investissement, mais elle, en contrepartie, elle attend des intérêts.
Et entre le client et la banque, qui gagne plus?
Ah, bien entendu, les deux sont censés gagner. Encore une fois, l'État est censé arbitrer. Aujourd'hui, on a la chance, le gouvernement est en train de pousser les banques à baisser les taux d'intérêt. Mmh. Parce que les taux d'intérêt que nous avons chez nous sont quand même un peu usuriers.
Généralement, c'est
pour des clients. Au Congo, c'est entre 15 et 20%, c'est trop cher. Mmh.
Dans l'heure, c'est combien?
3-5%, et ça se comprend. Chez nous, ça s'explique par le fait que pendant très longtemps, le risque était considéré comme très élevé. Et la Banque centrale est en train de démontrer de manière assez claire que, un, le taux d'intérêt, le taux directeur est maintenu à un certain degré de stabilité, et donc il y a moyen d'essayer de travailler vers la baisse.
Eh bien, et Ismaël de Kilumbashi pose encore une autre question, de savoir quels sont les critères que la banque considère avant d'attribuer
la viabilité, la viabilité, et elle est tenue par soit vos bilans, si vous êtes un homme d'affaires, ou alors vos revenus et votre capacité à pouvoir épargner. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les attributs sociaux. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez une maison? Est-ce que vous avez une voiture? Est-ce que vous avez des biens chez vous? En fonction de cela, on vous donne. Mais la dernière des choses, elle est beaucoup plus importante, c'est la discipline. par exemple, d'expérience, nous savons que dans ce pays, pendant très longtemps, les hommes politiques prenaient des crédits ou ne payaient jamais. On n'a jamais compris pourquoi, mais c'est une question d'indiscipline. C'est des gens qui roulent carrosse, mais qui ne remboursent pas leurs dettes. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement dramatique.
Oui, et ça s'explique, hein, ça s'explique pas.
Mais c'est de l'indiscipline pure et simple. Oui. Mais ça va ensemble avec le métier chez nous. Heureusement que les choses s'améliorent de plus en plus. Et je crois simplement que la discipline personnelle est quelque chose d'extrêmement important. Mm-hmm. Et il est important que les gens se rendent compte que si vous empruntez et vous remboursez, demain on va vous prêter encore davantage. On appelle ça le crédit personnel. On appelle ça le profil personnel. Dans tous les pays du monde, ils ont ce qu'on appelle les standards qui sont censés être respectés. Et il y a également des centrales de risque qui vous codifient et qui disent qui vous êtes. Où est-ce que vous avez emprunté de l'argent et avec quelle discipline vous avez remboursé. Et sur base de ça, le risque des banques est beaucoup plus faible parce que quand ils veulent vous prêter de l'argent, ils savent qui vous êtes.
On doit vous connaître.
Ce que vous faites. Et la banque centrale est en train de mettre une centrale de risque, qui est quelque chose qui manquait beaucoup et qui justifiait pour certaines banques des taux d'intérêt très élevés.
Mmh. Adrien de Lumbashi parle des meilleures stratégies avant de prêter l'argent à un client, et puis à un client qui n'a rien, donc est-ce qu'il peut bénéficier d'un crédit ou pas?
Je vais commencer par la deuxième question. Un client qui n'a rien peut bénéficier d'un crédit. Généralement,
il amène un projet, hein, par exemple, c'est un projet.
Généralement, on va dans ce qu'on appelle les microfinances, ça veut dire les petits crédits, parce qu'il faut y aller graduellement. Mmh. On ne prend pas des risques avec des grands montants. Et les microcrédits, on les retrouve facilement dans les microfinances, les institutions de microfinances. Et là-dedans, il y a plusieurs structures de crédits. Par exemple, il y a des crédits groupés. Vous êtes à 5 ou à 10, et on distribue le risque sur 10 personnes. Si jamais vous ne payez pas, vos autres collègues s'engagent à payer à votre place. Mmh. En fait, au lieu de la garantie matérielle, vous avez là une garantie morale. Et donc, il y a beaucoup de produits qui sont destinés à ceux qui n'ont rien. Et un pays doit avoir une stratégie pour être en mesure de servir de levier à toutes ces personnes qui, elles, n'ont rien. Mmh. Parce que c'est la seule manière de pouvoir leur donner l'opportunité de se relever. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien qu'on est condamné à ne rien avoir toute la vie. Et donc, il y a des crédits très spécifiques pour ce genre de personnes, mais ce genre de crédits sont dans les institutions de microfinance.
Bien. Aloïs Patadji, nous appelle le Canada. Bonjour.
Bonjour.
Oui, Aloïs, parlez un peu plus fort. Vous êtes à Kananga. Nous parlons de. Aujourd'hui, le terme du jour, c'est comment bien gérer un crédit à la consommation. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, j'ai trois questions à poser à notre invité.
Oui.
La première est celle de savoir combien de types de crédits à la consommation les invités peuvent nous distinguer. La deuxième, quels sont les délais de remboursement pour chaque catégorie de crédits dont il va distinguer? Et enfin, c'est comme l'a dit l'un de mes unités qui m'ont précédé, est-ce qu'ayant dépassé le délai de remboursement, celui qui emprunte l'argent peut-il compter sur la capitalisation des intérêts? Merci.
Bien, merci. Al Kitenge.
Le type de crédit à la consommation, il y en a 13 à la douzaine en réalité. C'est des produits financiers, des produits commerciaux plutôt que les banques structurent. En fonction de ceux qui sont en présence, en fonction des biens qu'ils vendent, ou en fonction de leur propre structure, mais également en tenant compte de ce que la concurrence fait. Donc, les crédits à la consommation, on peut en avoir des milliers. Je donne un exemple simple. Ceux qui ont les cartes de débit, okay, le carte de crédit plutôt,
oui.
Eux, ils ont un crédit à la consommation qu'on appelle un dépassement autorisé. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, le son banquier dit, tu peux dépenser jusqu'à hauteur de 1000 ou de 1500 ou de 2000 dollars, 10 000 dollars en fonction du profil du client. Et ça, c'est un crédit à la consommation réelle. Vous avez une carte, c'est juste un papier, un bout de plastique,
oui.
Mais on vous donne la possibilité de dépasser ce que vous avez dans votre compte. Et ça, c'est...
Mais ça, c'est pas dangereux, ça.
Généralement, les banques vous donnent ça si vous avez un profil qui montre que vous avez des revenus réguliers et sur lesquels, eux, ils prennent des risques. Parce qu'en vous donnant une ligne de crédit, vous leur payez des intérêts. De toute façon, c'est autour de 3-4%. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a ces crédits conventionnel. Vous allez voir un fournisseur de biens, il vous dit je peux vous donner ce bien pourvu que votre banque s'engage à payer pour vous. Et la banque regarde le bien et dit ok, je peux saisir le bien à un moment donné ou à un autre si jamais vous ne payez pas et vous accordez. En fait, il y en a 13 à la douzaine.
Okay.
On peut les mettre. Mais par contre, les délais de remboursement, ça c'est capital. Lorsque vous avez la valeur du bien, le délai de remboursement est déterminé par votre capacité de remboursement. Supposons que vous avez une capacité de mobilisation en épargne de 200 dollars, vous voulez acheter un bien de 1000 dollars, donc vous allez vous engager pour 5 mois. en tout cas au moins 5 mois, pour que vous ayez la capacité de rembourser, qui est l'équivalent de l'argent que vous avez l'habitude de pouvoir mettre de côté en dehors de ce que vous utilisez pour vivre au quotidien. C'est extrêmement important. Ne prenez pas des engagements qui dépassent vos capacités financières. Les banques peuvent être tentées de vous pousser à aller un peu plus loin en disant qu'elles veulent raccourcir les délais de remboursement pour diminuer le risque, mais ne l'acceptez que si vous êtes capable de le faire, sinon refusez ce crédit parce qu'il va vous mettre à risque.
Et c'est pas qu'il y a à la base de la crise financière dans le monde aujourd'hui.
Dans le monde aujourd'hui. Et la dernière des choses, c'est le dépassement des délais. Si vous êtes en situation où pendant un mois ou au cours d'un mois, vous n'allez pas être en mesure de rembourser votre quotité mensuelle, n'attendez pas le dernier jour. Allez voir la banque à l'avance. Vous allez trouver un autre arrangement. Et cet arrangement coûte moins cher que ne pas vous pointer et eux, ils considèrent que vous passez en défaut. Non seulement par rapport à la centrale de risque, vous allez être indexé comme un mauvais payeur, mais également, ils vont vous charger des pénalités de non-paiement. Parce qu'en fait, vous avez abusé du contrat que vous avez pris. Et ça, c'est important. Ça rentre dans la première des choses que j'ai dit, la discipline.
La discipline, et vous avez parlé aussi de l'éducation financière dans nos écoles, c'est, les gens ne sont pas éduqués concernant l'argent, et vous verrez une personne qui n'a jamais touché par exemple près de 20 ou 30 000 dollars, elle va solliciter un crédit à la banque, et se retrouve avec 30 000 dollars, c'est la folie qui commence, on va chercher des copines à gauche à droite, et certains, on a entendu certaines personnes qui ont trouvé des policiers qui vont les garder, ils entrent dans un bar et puis ils offrent la boisson à tout le monde, voilà, ça c'est un problème sérieux.
L'argent en général, il faut avoir un plan pour, parce que si vous n'avez pas un plan pour l'argent que vous allez gagner, il va vous rendre fou. L'argent est un très mauvais maître, c'est évident. Mais je pense simplement que lorsque vous avez un profil de vie bien déterminé, vous devez toujours avoir un plan A et un plan B. En disant, si je gagne de l'argent, qu'est-ce que je fais? Si je gagne beaucoup d'argent, qu'est-ce que je fais?
Il faut déjà avoir des plans avant d'avoir l'argent.
Mais absolument.
Sinon, ça vous rend fou, quoi.
Sinon, vous avez l'argent et c'est un agenda qui n'était pas le vôtre. On l'a vu avec les gens qui ont gagné à la loterie. La plupart, ils sont tombés en faillite au bout de 5 ans. D'autres ont divorcé, d'autres ont... L'argent est un très mauvais maître. Je pense simplement qu'il faut avoir un plan pour l'argent. Il faut maîtriser l'argent. Et pour le maîtriser, il faut avoir son projet. Si j'ai autant d'argent, voilà ce que je vais faire. Si j'ai plus d'argent, voilà ce que je vais faire. Et lorsque vous allez demander un crédit, ça doit être en toute connaissance. Vous devez avoir étudié sous toutes les facettes. D'ailleurs, c'est une des conditions que la banque vous donne pour vous donner du crédit.
Donc, il faut bien canaliser, trouver déjà des canaux d'affectation de cet argent.
La discipline reste encore le maître mot en matière de crédit.
Bien. Maître Laurent, nous appelle Kinshasa. Bonjour. Maître Laurent, vous êtes en ligne. Bonjour.
Oui, bon, en tout cas, moi, j'aimerais d'abord montrer l'inquiétude par rapport aux banquiers et les débiteurs qui fréquentent souvent nos banques, par exemple, à Kinshasa, où on leur demande la caution, à part ce qu'ils peuvent visiter comme vos installations et consorts, mais ils vous disent encore de verser 20% de la somme dont vous sollicitez un crédit. À supposer que vous avez besoin de 5 000 dollars, vous devez payer les 20% de 5 000 dollars qui, évidemment, ça peut être 1 000 dollars. Maintenant, vous allez rembourser ces fonds-là périodiquement, mensuellement, et avec un certain pourcentage qu'on détermine. Mais jusqu'à la fin, quand vous arrivez à la fin du remboursement, maintenant, qui vous restitue les 20%-là exactement comme vous l'aviez déposé? Mais alors, c'est de l'argent liquide que vous aviez versé là-bas. Leur argent a produit des intérêts, mais votre argent que vous consignez, ça ne produit pas des intérêts. N'est-ce pas là, c'est une autre forme d'escroquerie où, à part les pourcentages qui se sont déterminés dans leur fonds maintenant, il exige encore aux débiteurs, il exige aux débiteurs de payer les 20% avant de prendre les crédits. Et peut-être même dans ces mêmes 20% là qu'ils vont encore lui donner une somme de crédit. Et finalement, à la fin du remboursement, on lui restitue exactement ce qu'il a pu verser, qui est un intérêt. Alors, n'est-ce pas là aussi une forme d'escroquerie au niveau des banques?
Voilà, vous sollicitez un crédit et puis la banque vous dit un déposit de 20% avec qui t'es mieux. C'est une forme d'escroquerie ou pas?
C'est une stratégie en fait. Ce que la banque essaie de faire aujourd'hui répond à quelque chose de très simple.
Oui.
Dans tous les pays du monde, les assurances sont bien organisées et structurées. Même votre crédit est assuré. Lorsque vous prenez un crédit, vous payez une assurance sur votre crédit. Au cas où vous mourrez, votre assurance paye votre crédit. Aujourd'hui, les banques prennent énormément de risques et on peut comprendre qu'ils mettent à la fois une ceinture et des bretelles pour être sûr qu'ils diminuent leurs risques. Et c'est pour ça qu'ils trouvent toutes les astuces et toutes les structures nécessaires pour se mettre du bon côté. Encore une fois, ça, c'est des choses qui se règlent sur deux paliers. Le premier palier, c'est la concurrence. Ça veut dire, en fait, vous allez chez celui qui donne les meilleures conditions. Le deuxième palier, c'est ce qu'on appelle les associations des consommateurs. Ils doivent être regardants, ils doivent être en mesure de documenter les différents crédits, les comparer et donner des explications aux gens. Dans tous les pays du monde, il y a des organisations des consommateurs qui ne sont là que pour éclairer les consommateurs sur les réalités des crédits, sur les réalités des offres et des produits, et ils donnent l'information aux consommateurs. Malheureusement, chez nous, les consommateurs sont individualisés. Ils agissent en toute ignorance. Et je pense simplement que là-dessus, il y a des
associations des consommateurs dans ces pays, mais...
Très paresseuses, malheureusement. Oui, ouais. C'est vrai. Et c'est des plateformes politiques, malheureusement. Et je pense simplement que là-dessus, les universités devraient être des avant-gardistes. Les universités devraient être en mesure de produire des études comparées. Les universités devraient envoyer les étudiants dans les analyses pour être en mesure de produire des informations pour la communauté. C'est extrêmement important. Et je reviens encore une fois sur cette affaire d'éducation financière. C'est quelque chose d'important. Le crédit vient toujours avec un risque. Et le système du crédit peut cracher simplement parce que nous n'avons pas tenu les mesures prudentielles. Et il est important que le Congo se rende compte que nous sommes dans une phase d'apprentissage. C'est seulement les 10 dernières années qu'on a commencé à voir les banques renaître. Et donc, les Congolais à réapprendre. Regardez déjà la grosse frustration qu'il y a aujourd'hui avec la paye bancarisée. Les gens trouvent quand même...
Ah oui, la bancarisation, ça pose trop de problèmes.
Les gens trouvent des mécanismes pour critiquer la bancarisation. Ouais. C'est une voie obligée. C'est une chance pour quelqu'un d'avoir un compte bancaire.
Ouais.
Parce qu'au travers du compte bancaire, on voit votre profil, donc on vous élit à la possibilité d'accéder à un crédit. Et le crédit bien utilisé, ils vous donnent la possibilité d'accéder à des biens auxquels vous ne pouvez pas accéder immédiatement. Et donc, si vous êtes suffisamment intelligent, vous pouvez vous organiser. Si vous êtes suffisamment discipliné, le crédit ne sera pas un problème pour vous.
Voilà, c'est une chose nouvelle. Beaucoup de gens découvrent. Ils n'ont jamais fait ça avant. Et c'est là, ça aurait été mieux si les gens étaient sensibilisés bien avant de lancer ce genre d'opération.
Il faut faire avec aujourd'hui. Je pense qu'il faut faire avec. Il y a des gens qui vont beaucoup plus vite que les autres. Et je pense simplement que même en termes de sensibilisation, il doit y avoir une sensibilisation pour l'élite, les intellectuels. Il doit y avoir une sensibilisation pour les mamans du grand marché. Il doit y avoir une sensibilisation pour nos élèves qui sont à l'école. Et donc, il faut préparer aussi bien ceux qui sont face à la réalité aujourd'hui et les citoyens de demain.
Alors, on retient que pour bien gérer un crédit à la consommation, il faut être discipliné.
Il faut être très discipliné, il faut être prudent, il faut savoir prendre des engagements qui sont dans les limites de vos capacités.
Il faut bien lire les contrats.
Il faut bien lire les contrats et surtout les petites écritures, il faut bien les lire. Et si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour comprendre les termes de votre contrat, faites-vous assister par un avocat ou par un conseiller financier.
Bien, Al Kitenge, stratège et analyste économique. Merci.
C'est à mon tour, merci.